nouvelle extraite de Page d'Islam d'Isabelle Eberhardt. L'enlumineur sacré. Sous les petites coupoles de plâtre que dore le soleil, les boutiques s'alignent, minuscules, inégales comme des alvéoles. Les comptoirs branlants sont de planches brutes. Dans la lumière exaspérée, les mouches bourdonnent, alléchées, grisées par le suc fermenté des dattes. Les ombres violettes, très brèves, coupent l'éblouissement des choses et l'accablement de l'heure, tel est bruit. Le maître de l'une des boutiques, assis sur une caisse, accoudé sur le comptoir, le capuchon rabattu sur le front, sommeille, l'œil mi-clos, dans la pose assoupie, mais vivante, du félin au repos. Dans le fond, sur une natte, si El Hadj Hamouda s'applique au travail patient d'enluminure qui délaie en douceur la monotonie des heures, il copie, d'un calame expert, les paroles des livres, ornant d'or et de cinabre les pages ambrées, après avoir pieusement inscrit sur la première la formule « Ne le touchez pas si vous n'êtes pur ». Lentement, d'une main calme et agile, Hadj Hamouda enroule en volute les caractères de rêve, les encadre d'arabesques déliées ou les rouges et les verts rehaussent les ors pâlissants, séparent les versets par de petites étoiles naïves en guise de points. La feuille de parchemin, simplement posée sur son genou, ses encres en de petites tasses ébréchées, l'enlumineur travaille, malgré la lourdeur amollissante de l'air, malgré l'obstination des mouches. Enveloppé de burnous blancs, encapuchonné et un long chapelet au cou, Hadj Hamouda, de visage émacié et brun, de traits réguliers, la barbe grisonnante à peine, poursuit son œuvre patiente. Son regard est calme, éteint, et l'ambition y paraît à peine. Parfois, une ombre de sourire passe sur sa lèvre, quand lui plaît la bonne ordonnance d'une page, la grâce d'une vignette. Il vit de ce travail charmant en une insouciance heureuse, en cette boutique qui l'abrite avec la piété hospitalière de l'islam. Après des années, il y reste toujours l'hôte discret, ne se mêlant pas du mouvement journalier, presque pas même des conversations. Parfois, quelques vieux talebs, distingués et polis, au geste grave, vient s'asseoir sur la natte du calligraphe après avoir baisé son front en signe de respect. De nombreux salams sans hâte, puis des discours lents où passent des choses très vieilles. Les enfants eux-mêmes n'osent pas venir jouer devant la boutique et la présence de Hadj Hamouda la sanctifie presque. Aux heures où l'appel plaintif des mouédines plane sur El Oued, l'enlumineur se lève, rejette ses burnous sur son épaule d'un geste ample et beau et s'en va à la mosquée de Messaba. Entre les dernières maisons du Ksar et les premières dunes qui continuent les coupoles en teintes plus claires, un dôme gris s'élève sur des murs bas et effrités, dans un enclos où de jeunes dattiers tamisent en bleu l'ardeur de la lumière. Près du puits à Otara, dont l'armature grince, lourde et criarde, dans un bassin de plâtre, les fidèles font les ablutions rituelles. Puis, dans l'intérieur frustre et nu, sur les nattes desséchées et jaunies, ils se prosternent ensemble, en attestant l'unité absolue de Dieu. Hadj Hamouda, au premier rang, récite à voix haute les versets chantants. Le plus savant parmi les assistants, il est l'imam. Après, du même pas lent, il regagne sa boutique où il reprend son kalam et son travail suranné. Le soir, à l'heure rouge où le soleil embrase le Ksar, Hadj Hamouda, toujours seul, promène son rêve restreint, doux, sa mélancolie sans motif extérieur, au sommet des dunes, sur les pistes grises. entre les tombeaux disséminés. Parfois, il s'arrête, les mains levées et ouvertes devant lui comme un livre, et il dit une fatia devant quelques tombeaux anonymes ou quelques koubas blanches esselées dans le désert. Après la prière de l'achat, il rentre dans la boutique et reprend sur sa natte la prière commencée à la mosquée. Assis, la tête penchée, il égrène son chapelet, l'œil voilé d'un rêve plus lointain. Puis, sur l'humble couche, toujours solitaire, il s'endort sans regret et sans désir. Exempt de colère et de passion, sans famille, sans souci, Adjamouda vit, attendant en paix l'heure inconnue. Le magicien. Si Abdes Selem habitait une petite maison caduque, en pierre brute, grossièrement blanchie à la chaux, sur le toit de laquelle venait s'appuyer le tronc recourbé d'un vieux figuier aux larges feuilles épaisses. Deux pièces de ce refuge étaient en ruine. Les deux autres, un peu surélevées, renfermaient la pauvreté fière et les étranges méditations de Si Abdes Selem, le Marocain. Dans l'une, il y avait plusieurs coffres, renfermant des livres et des manuscrits du Maghreb et de l'Orient. Dans l'autre, sur une natte blanche, un tapis marocain avec quelques coussins. Une petite table basse en bois blanc, un réchaud en terre cuite, avec de la braise saupoudrée de benjoin, quelques tasses à café et autres humbles ustensiles d'un ménage de pauvres, et encore des livres composaient tout l'ameublement. Dans la cour délabrée, autour du grand figuier abritant le puits et le dallage disjoint, il y avait quelques pieds de jasmin, seul luxe de cette singulière demeure. Alentour, c'était le prestigieux décor de collines et de vallons verdoyants, sertissant, comme un joyau, la blanche Aneba. Autour de la maison de Si Abdes Selem, les koubas bleuâtres et les blancs tombeaux du cimetière de Sidel Ouchech se détachaient en nuances pâles sur le vert sombre des figuiers. Le soleil s'était couché derrière le grand hidou, morose, et l'incendie pourpre de tous les soirs d'été s'était éteint sur la campagne alanguie. Si Abdes Selem se leva, c'était un homme d'une trentaine d'années, de haute taille, svelte sous des vêtements larges, dont la blancheur s'éteignait sous un burnous noir. Un voile blanc encadrait son visage bronzé, émacié par l'éveil, mais dont les traits et l'expression étaient d'une grande beauté. Le regard de ses longs yeux noirs était grave et triste. Il sortit dans la cour pour les ablutions et la prière du Maghreb. « La nuit sera sereine et belle, et j'irai réfléchir sous les eucalyptus de l'oued d'Eheb, » pensa-t-il. Quand il eut achevé la prière et le dicre du bienheureux tchèque Sidi Abdelkader Djilani de Bagdad, Si Abdes Selem sortit de sa maison. La pleine lune se levait là-bas, au-dessus de la haute mer calme, à l'horizon à peine embruni de vapeurs légères, d'un gris de lin. Les féroces petits chiens des demeures bédouines, proches du cimetière, grondèrent, sourdement d'abord, puis coururent, hurlant, vers la route de Sidi Ibrahim. Alors, Si Abdes Selem perçut un appel effrayé, une voix de femme. Surpris, quoique sans hâte, le solitaire traversa la prairie et, arrivant vers la route, il vit une femme, une juive richement parée, qui, tremblante, s'appuyait contre le tronc d'un arbre. « Que fais-tu ici la nuit ? » dit-il. « Je cherche le Sahar, Si Abdes Selem, le Marocain. J'ai peur des chiens et des tombeaux. Protège-moi. » »« C'est donc moi que tu cherches. À cette heure tardive et seule, viens. Les chiens me connaissent et les esprits ne s'approchent pas de celui qui marche dans le sentier de Dieu. » La juive le suivit en silence. Abdes Selem entendait le claquement des dents de la jeune femme et se demandait comment cette créature, parée et timide, avait pu venir là, seule, après la tombée de la nuit. Ils entrèrent dans la cour, et si Abdes Selem alluma une vieille petite lampe béduine, fumeuse. Alors, s'arrêtant, il considéra son étrange visiteuse. Svelte et élancée, la juive, sous sa robe de brocart bleu pâle, avec sa gracieuse coiffure mauresque, était belle, d'une troublante et étrange beauté. Elle était très jeune. « Que veux-tu ? » ?»« On m'a dit que tu sais prédire l'avenir. J'ai du chagrin et je suis venue. » Pourquoi n'es-tu pas venu de jour, comme les autres ? Que t'importe ? Écoute-moi et dis-moi quel sera mon sort. Le feu de l'enfer, comme celui de ta race infidèle. Mais si Abdes Selem dit cela sans dureté, presque souriant. Cette apparition charmante rompait la monotonie de son existence et secouait un peu le lourd ennui dont il souffrait en silence. « Assieds-toi, » dit-il, l'ayant fait entrer dans sa chambre. Alors la juive parla. « J'aime, » dit-elle, « un homme qui a été cruel envers moi et qui m'a quittée. Je suis restée seule et je souffre. Dis-moi s'il reviendra. »« C'est un juif ?»« Non, un musulman. Donne-moi son nom et celui de sa mère. » Et laisse-moi faire le calcul que m'ont appris les sages du Maghreb, ma patrie. El Moustanzar, fils de Fatima. Sur une planchette, Si Abdes Selem traça des chiffres et des lettres. Puis, avec un sourire, il dit « Juive, ce musulman qui s'est laissé prendre à ton charme trompeur et qui a eu le courage louable de le fuir, reviendra. » Oh ! La juive eut une exclamation de joie. « Oh ! » dit-elle, « je te récompenserai généreusement. » Toutes les richesses, mal acquises de ta race, ne récompenseraient point indignement le trésor inestimable et amer que je t'ai donné, la connaissance de l'avenir. À présent, si dit, j'ai quelque chose encore à demander à ta science. Je suis Raïl, fille de Ben-Ami. Et elle prit le roseau qui servait de plume au Taleb et l'appuya contre son cœur, tandis que ses lèvres murmuraient des paroles rapides, indistinctes. « Il vaudrait mieux ne pas tenter de savoir plus entièrement ce qui t'attend. »« Pourquoi ? Oh, réponds, réponds !»« Soit. » Et si Abdes Selem reprit son grimoire mystérieux ? Tout à coup, un violent étonnement se peignit sur ses traits. Et il considéra attentivement la juive. Si Abdes Selem était poète, et il se réjouissait du hasard étrange qui mettait en contact avec son existence celle de cette juive qui, selon son calcul, devait être tourmentée et singulière, et finir tragiquement. « Écoute, dit-il, et n'accuse que toi-même de ta curiosité. » Tu as causé l'infortune de celui que tu aimes. Il l'ignore, mais d'instinct, peut-être, il a fui. Mais il reviendra, et il saura. Oh, Raïl, Raïl, en voilà-t-il assez, ou faut-il tout te dire ? Tremblante, livide, la juive fit un signe de tête affirmatif. Tu auras encore avec celui qui doit venir une heure de joie et d'espérance. Puis tu périras dans le sang. » Ces paroles tombèrent dans le grand silence de la nuit, sans écho. La juive cacha son visage dans les coussins, anéantie. « C'est donc vrai. Tout à l'heure, au Maghreb, j'ai interrogé la vieille Tirsa, la gitane de la porte du jeudi. Et je ne l'ai pas crue, je l'ai insultée. Et toi, toi, tu me répètes plus horriblement encore sa sentence ? Mourir ? Pourquoi ? Je suis jeune, je veux vivre. Voilà, c'est ta faute. Tu étais le papillon éphémère dont les ailes reluisent des couleurs les plus brillantes et qui voltige sur les fleurs. Ignorant de son heure, tu as voulu savoir et te voilà devenu semblable au héron mélancolique qui rêve dans les marécages enfiévrés. La juive, affalée sur le tapis, sanglotait. Si Abdessalem la regardait et réfléchissait avec la curiosité profonde de son esprit scrutateur, affiné dans la solitude. Il n'y avait pas de pitié dans son regard. Pourquoi plaindre cette Raïl ? Tout ce qui allait lui arriver n'était-il pas écrit, inéluctable ? Et ne prouvait-elle pas la vulgarité et l'ignorance de son esprit en se lamentant de ce que la destinée lui avait donné en partage ? Un sort moins banal que celui des autres, plus de passion, plus de vicissitudes en moins d'années, la sauvant du dégoût et de l'ennui ? Raïl, dit-il, Raïl, écoute, je suis celui qui blesse et qui guérit, celui qui réveille et qui endort. Écoute, Raïl. Elle releva la tête. Sur ses joues pâlies, des larmes coulaient. Cesse de pleurer et attends-moi, il est l'heure de la prière. Si Abdessalem prit dans une niche élevée un livre relié en soie brodée d'or et, l'ayant pieusement baisé, l'emporta dans une autre pièce. Puis, dans la cour, il pria l'achat. Raïl seule s'était relevée et accroupie, elle songeait et sa pensée était lugubre. Elle regrettait amèrement d'avoir voulu tenter le sort et savoir ce qui devait lui arriver. Si Abdessalem rentra avec un sourire. « Eh bien, dit-il, ne savais-tu pas que tôt ou tard tu allais mourir ? J'espérais vivre, être heureuse encore et mourir en paix. » Si Abdessalem haussa les épaules dédaigneusement. Raïl se leva. « Que veux-tu comme salaire ?» La voix de la juive était devenue dure. Il resta silencieux, la regardant. Puis, après un instant, il répondit. « Me donneras-tu ce que je demanderai ?» « Oui, si ce n'est pas trop, je prendrai comme salaire ce que je voudrai. » Il lui prit les poignets. Elle fut insolente. « Laisse-moi partir, je ne suis pas pour toi, lâche-moi. Tu es comme la grenade mûre tombée de l'arbre, pour celui qui la ramasse, le bien trouvé et le bien de Dieu. Non, laisse-moi partir. » Et elle se débattit, cherchant à se dégager, à le griffer. Irrésistiblement, il l'inclinait vers le tapis. La beauté de Raïl charma les heures d'une courte nuit d'été pour le magicien mélancolique. Et le matin, quand Raïl eut connu l'enchantement presque douloureux tant il était intense de l'amour du magicien, quand, indifférent et songeur, il lui dit qu'elle pouvait partir, elle se laissa choir à ses pieds et qu'elle baisa, l'implorant. « Oh, laisse-moi revenir !» Auprès de toi, j'oublierai El Moustanzar, le soldat, et j'éviterai peut-être la perte que son amour me réserve. Si Abdessalem hocha la tête. Non, ne reviens pas. La griserie d'une heure charmante ne renaîtrait plus. Non, ne reviens pas. Va à ton destin, j'irai au mien. Rouge et ardent, baigné d'or pourpré, le soleil se levait au-dessus de la mer, d'une nuance liliacée. Nacré, où de légers serpents d'argent couraient, rapides, fugitifs. Le long de l'ouette d'Éheb, limpide et tranquille, sous les eucalyptus bleuâtres, si Abdessalem s'avançait lentement, rêveur. Souvent, après les premières prières du jour, si Abdessalem aimait promener son rêve triste, communier au sourire des choses. Tout à coup, sur la plage déserte, parmi les herbes longues et verdâtres, les coquillages blancs et les galets noirs, si Abdessalem aperçut un corps de femme couché sur le dos, vêtu d'une robe de brocart rose et enveloppé d'un grand châle de cachemire. Il s'approcha et se pencha, soulevant le châle. Il reconnut la juive, jeune et belle, les yeux clos, les lèvres retirées dans un sourire douloureux. Deux coups de baïonnette avaient transpercé son corps et le sang inondait sa poitrine. Si Abdessalem se redressa. il regarda le cadavre pendant un instant. Et, dans sa pensée, il détailla les souvenirs de la nuit d'amour que, 3 années auparavant, il avait prise à la belle Raïl. Puis, du même pas tranquille, il reprit sa promenade dans la splendeur plus ardente du jour éblouissant. Fleur d'amandier. Bouhsada, la reine fauve, vêtue de ses jardins obscurs et gardée par ses collines violettes, dort, voluptueuse, au bord escarpé de l'oued où l'eau bruisse sur les cailloux blancs et roses. Penchée, comme en une nonchalance de rêve sur les petits murs terreux, les amandiers pleurent leurs larmes blanches sous la caresse du vent. Leur parfum doux plane dans la tiédeur molle de l'air, évoquant une mélancolie charmante. C'est le printemps, et sous ses apparences de langueur, de faim attendrie des choses, la vie couve, violente, pleine d'amour et d'ardeur. La sève puissante monte des réservoirs mystérieux de la terre, pour éclore bientôt en une ivresse de renouveau. Le silence des cités du sud règne sur Bouhsada, et dans la ville arabe, les passants sont rares. Dans l'oued, pourtant, circulent parfois des théories de femmes et de fillettes en costume éclatant. Mlafa violette, vert émeraude, rose vif, jaune citron, grenat, bleu de ciel, orange, rouge ou blanche, brodée de fleurs et d'étoiles multicolores. Tête coiffée du lourd édifice de la coiffure saharienne, composée de tresses, de mains d'or ou d'argent, de chaînettes, de petits miroirs et d'amulettes, ou couronnée de diadèmes ornés de plumes noires. Tout cela passe, chatoie au soleil. Les groupes se forment et se déforment en un arc-en-ciel sans cesse changeant, comme des essaims de papillons charmants. Et ce sont encore des groupes d'hommes vêtus et encapuchonnés de blanc, au visage grave et bronzé, qui débouchent en silence des ruelles ocreuses. Depuis des années, devant une masure en boue séchée au soleil ami, 2 vieilles femmes sont assises du matin au soir. Elles portent des mlafas rouges sombres et dont la laine épaisse forme des plis lourds autour de leur corps de momie. Coiffées selon l'usage du pays, avec des tresses de laine rouge et des tresses de cheveux gris teints au henné en orangé vif, elles portent de lourds anneaux dans leurs oreilles fatiguées, que soutiennent des chaînettes d'argent agrafées dans les mouchoirs de soie de la coiffure. Des colliers de pièces d'or et de pâtes aromatiques durcies, de lourdes plaques d'argent ciselées, couvrent leurs poitrines affaissées. À chacun de leurs mouvements, rares et lents, toutes ces parures et les bracelets à clous de leurs chevilles et de leurs poignets osseux tintent. Immobiles comme de vieilles idoles oubliées, elles regardent à travers la fumée bleue de leurs cigarettes passer les hommes qui n'ont plus un regard pour elles, les cavaliers, les cortèges de noces, les caravanes de chameaux ou de mulets, les vieillards caducs qui ont été leurs amants jadis, tout ce mouvement de la vie qui ne les touche plus. Leurs yeux ternes, démesurément agrandis par le kohl, leurs joues fardées quand même, malgré les rides, leurs lèvres rougies, tout cet apparat jette comme une ombre sinistre sur ces vieux visages émaciés et édentés. Quand elles étaient jeunes, Saadia, à la fine figure aquiline et bronzée, et Habiba, blanche et frêle, charmaient les loisirs des Bouhsaidi et des nomades. Maintenant, riches, parées du produit de leur rapacité d'antan, elles contemplent en paix le décor chatoyant de la grande cité où le tel se rencontre avec le Sahara, où les races d'Afrique viennent se mêler. Et elles sourient. À la vie qui continue immuable et sans elles, ou à leurs souvenirs, qui sait? Aux heures où la voix lente et plaintive des mouadines appelle les croyants, les 2 amis se lèvent et se prosternent sur une natte insouillée avec un grand cliquetis de bijoux. Puis elles reprennent leur place et leur songerie, comme si elles attendaient quelqu'un qui ne vient pas. Rarement, elles échangent quelques paroles. « Regarde, ô Saadia, là-bas, si Chalal le cadi. Te souviens-tu du temps où il était mon amant ? Quel fringant cavalier c'était alors ! Comme il enlevait adroitement sa jument noire ! Et comme il était généreux, quoique simple à d'elle encore ! À présent, il est vieux. Il lui faut 2 serviteurs pour le faire monter sur sa mule aussi sage que lui. Et les femmes n'osent plus le regarder en face, lui dont je mangeais les yeux de baiser. Oui, et si Ali, le lieutenant qui simple spahi était venu avec si Chalal, et que j'ai tant aimé, t'en souviens-tu ? Lui aussi, c'était un cavalier hardi et un joli garçon. Comme j'ai pleuré quand il est parti pour Médéa. Lui, il riait, il était heureux. On venait de le nommer brigadier et il m'oubliait déjà. Les hommes sont ainsi. Il est mort l'an dernier. Dieu lui accorde sa miséricorde. Parfois, elles chantent des couplets d'amour qui sonnent étrangement dans leur bouche à la voix chevrotante, presque éteinte déjà. Et elles vivent ainsi. Insouciante parmi les fantômes des jours passés, attendant que l'heure sonne. Le soleil rouge monte lentement derrière les montagnes drapées de brumes légères. Une lueur pourpre passe à la face des choses comme un voile de pudeur. Les rayons naissants sèment des aigrettes de feu à la cime des dattiers et les coupoles d'argent des marabouts semblent en or massif. Pendant un instant, toute la vieille ville fauve flambe, comme calcinée par une flamme intérieure, tandis que les dessous des jardins, le lit de l'oued, les sentiers étroits demeurent dans l'ombre, vague, comme emplie d'une fumée bleue qui délaye les formes, adoucit les angles, ouvrant des lointains de mystère entre les petits murs bas et les troncs ciselés des dattiers. Sur le bord de la rivière, la lueur du jour, un carnadin, teinte en rose les larmes éparses, figées en neige candide des amandiers pensifs. Devant la demeure des 2 vieilles amies, le vent frais achève de disperser la cendre du foyer éteint, qu'elle emporte en un petit tourbillon bleuâtre. Saadia et Habiba ne sont pas à leur place accoutumée. À l'intérieur, une plainte, tantôt rauque, tantôt stridente, monte. Autour de la natte sur laquelle Habiba est couchée, tel un informe paquet d'étoffes rouges, sur l'immobilité raide duquel les bijoux scintillent étrangement, Saadia et d'autres amoureuses d'antan se lamentent, se déchirant le visage à grands coups d'ongles. Et le cliquetis des bijoux accompagne en cadence la plainte des pleureuses. À l'aube, Habiba, trop vieille et trop usée, est morte sans agonie, bien doucement, parce que le ressort de la vie s'était peu à peu brisé en elle. On lave le corps à grande eau, on l'entoure de linge blanc sur lequel on verse des aromates, puis on le couche le visage tourné vers l'Orient. Vers midi, des hommes viennent qui emportent Habiba vers l'un des cimetières sans clôture, où le sable du désert roule librement sa vague éternelle contre les petites pierres grises innombrables. C'est fini. Et Saadia, seule désormais, a repris sa place. Avec la fumée bleue de son éternelle cigarette, achève de s'exhaler le peu de vie qui reste encore en elle. Tandis que sur les rives de l'oued ensoleillé et dans l'ombre des jardins, les amandiers finissent de pleurer leurs larmes blanches en un sourire de tristesse printanière.